Chapitre 14, suite. Schweigs s'apprêtait pour aller dénicher un griffon d'écurie, lorsque la sonnette ayant retenti avec frénésie dans l'appartement silencieux, il ouvrit la porte et se trouva face à face avec une dame qui voulait parler d'urgence au lieutenant Lucas. À ses pieds se trouvaient deux grosses malles déposées par un commissionnaire. Schweigs entrevit encore sa casquette rouge disparaissant dans l'escalier.
Il n'est pas chez lui, fit sèchement Schweigs.
Mais la jeune femme, sans se laisser décourager par cet accueil peu aimable, se faufila dans l'antichambre et ordonna catégoriquement à Schweigs « Portez les malles dans la chambre à coucher.
Sans ordre formel de mon lieutenant, c'est impossible. Il m'a ordonné une fois pour toutes que je ne devais rien faire autrement. »«
Mais vous êtes fou !» s'écria la jeune femme. « Je viens en visite, moi. »«
Moi, je l'ignore complètement, » répondit Schweigs. « Mon lieutenant est de service aujourd'hui, il rentre en tard dans la nuit. Le seul ordre que j'ai reçu, c'est de chercher un griffon d'écurie, c'est tout. Il m'a pas parlé de mal, ni d'une dame. » Oh, je vais maintenant fermer à clé notre appartement et vous seriez bien aimable de vous en aller. Le lieutenant m'a pas annoncé votre visite et je peux pas confier l'appartement à une personne étrangère que j'ai jamais vue. Une fois, le confiseur, c'est qui dans notre rue, avait laissé un homme tout seul dans l'arrière-boutique. Eh bien, le type, il a cambriolé une armoire et il s'est sauvé par la fenêtre.
Et comme la visiteuse se mettait à pleurer, Schweigs changea de ton.
« Bon, je pense mal de vous, ma petite dame, vous pouvez pas rester ici. Vous allez me donner raison vous-même, puisque vous voyez que le lieutenant m'a confié l'appartement à moi, qui suis responsable de tout. Je vous demande donc, encore une fois et très poliment, de bien vouloir vous retirer. Tant que j'aurai pas l'ordre formel du lieutenant, je vous connais pas. Ça me fait de la peine de vous parler comme ça, mais chez nous autres militaires, il faut de l'ordre avant tout. »
Un peu rassérénée, la jeune femme tira une carte de visite, y traça quelques lignes et, la mettant dans une coquette enveloppe, dit avec embarras « Portez ça à votre lieutenant, j'attendrai la réponse ici. Voici 5 couronnes comme pour boire. »
« Mais il n'y a rien à faire !» répondit Schweigs, froissé par l'obstination de la visiteuse inattendue. « Gardez vos 5 couronnes, les voilà, je les mets sur la chaise. » « Si vous voulez, m'emmenez avec moi à la caserne et attendez-moi là que je remette votre lettre au lieutenant. Alors là, vous aurez la réponse, mais vous entêtez pas à rester ici. Vous attendriez 15 ans. C'est pas la peine. »
Sur ce, il poussa les deux malles du corridor dans l'antichambre et faisant grincer la serrure, il cria, tel le gardien d'un vieux château ou d'un musée, « On ferme !» Désespérée, la jeune femme sortit de l'appartement. Schweigs ferma la porte à double tour et descendit l'escalier. L'inconnu le suivait comme un petit chien et ne put le rejoindre qu'au moment où Schweigs sortait du bureau de tabac. Elle marchait maintenant à côté de lui et s'efforçait de lier conversation avec lui.
« Vous remettrez bien ma carte, n'est-ce sans faute ?»«
Mais puisque je vous l'ai dit !»
Et vous êtes sûr de trouver le lieutenant ?
Oh, là, j'en sais rien.
Ces paroles furent suivies d'un long silence. C'était encore l'infortunée visiteuse qui essayait de faire parler l'ordonnance trop scrupuleuse.
Ainsi, vous croyez que vous ne trouverez pas le lieutenant ?
Bon, je dis pas ça.
Et où pensez-vous le trouver ?
Oh, ça, j'en sais rien.
De nouveau, le silence régna. Enfin, la jeune femme hasarda encore une question.
« Vous n'avez pas perdu ma lettre ?»«
Non, pas pour le moment. »«
Mais vous allez la remettre au lieutenant ?»«
Oui. »«
Et vous êtes sûr de le trouver ?»«
Ben, puisque je vous ai dit, j'en savais rien. »« C'est étonnant comme il y a des gens curieux. Ils vous demandent 50 fois la même chose. »
Oh, c'est comme si je m'amusais à arrêter un passant après l'autre dans la rue pour lui demander quel jour du mois on est. »
Toutes les ressources de la conversation étant ainsi épuisées,
Ils marchèrent sans s'occuper l'un de l'autre jusqu'à la caserne. Devant la porte, Schweik invita la jeune femme à l'attendre et entama une discussion sur la guerre avec un des factionnaires. La dame épiait Schweik de l'autre côté du trottoir et manifestait son impatience par des mouvements nerveux. Cependant que Schweik n'arrêtait pas de discourir et arborait une expression aussi stupide que celle de l'archiduc Charles sur une photographie récemment parue dans la chronique de la Grande Guerre. Le successeur du trône autrichien causant avec deux aviateurs qui viennent d'abattre un avion russe. Schweik s'assit sur le banc et continua à renseigner les soldats sur la situation stratégique. Dans les Carpates, les attaques de l'armée autrichienne avaient, paraît-il, remporté un échec complet. Mais, d'autre part, le général Kouzmanek, commandant sur Tsersil, se serait avancé jusqu'à Kiev. En Serbie, nous aurions prudemment laissé 11 solides points d'appui et les Serbes seraient bientôt exténués de courir après nos soldats. Ensuite, Schweik passa une critique serrée les derniers combats et fit une découverte. Il constata qu'un détachement de soldats cerné de partout par l'ennemi devait forcément capituler. Enfin, jugeant qu'il avait assez parlé, il quitta son banc pour dire à la jeune femme de patienter encore un peu. Sur ce, il monta au bureau, où il trouva le lieutenant Lucas en train de corriger le projet d'une tranchée fait par un sous-lieutenant, en lui signifiant qu'il ne savait même pas dessiner et ne comprenait rien à la géométrie. « C'est comme ça qu'il faut vous y prendre, voyez-vous, » disait-il. « S'il s'agit d'élever une verticale sur une horizontale, il faut la dessiner de telle sorte qu'elle forme angle droit avec l'horizontale. Comprenez-vous ? C'est seulement comme ça que vous arriverez à voir à peu près juste la ligne de votre tranchée là et à rester à 6 mètres de l'ennemi. Mais tel que vous l'aviez dessiné, vous auriez enfoncé votre position dans celle de l'ennemi et votre tranchée monterait verticalement au-dessus de la tranchée ennemie, tandis que ce qu'il vous faut, c'est un angle obtus. C'est pourtant bien simple, n'est-ce pas ? Le sous-lieutenant de réserve, employé de banque dans le civil, contemplait avec désespoir le plan auquel il ne comprenait absolument rien et soupira de soulagement lorsque Schweik entra et se mit en position militaire devant le lieutenant. « Je vous déclare avec obéissance, mon lieutenant, qu'il y a en bas une dame qui vous envoie cette lettre et attend la réponse, » dit Schweik. Et il cligna familièrement de l'œil. Le contenu de la lettre ne sembla point ravir le lieutenant. Il lut, écrite en allemand, « Mon cher Henri, mon mari me persécute. Il faut absolument que tu me reçoives pour quelques jours. Ton ordonnance est une sale bête. Je suis bien malheureuse. Ta Cathy. » Le lieutenant Lucas souffla bruyamment, fit entrer Schweik dans une pièce vide à côté du bureau, ferma la porte et se mit à faire les 100 pas. Enfin, il s'arrêta devant Schweik et lui dit « Cette dame m'écrit que vous êtes une sale bête. Qu'est-ce que vous avez pu lui faire, dites ?»« Elle vous déclare avec obéissance, mon lieutenant, que je ne lui ai pas fait de mal. Au contraire, j'ai été tout à fait comme il faut. » « Ben, c'est plutôt elle, elle a voulu emménager chez nous. Comme vous m'aviez donné aucun ordre, je l'ai empêchée d'entrer dans notre appartement. Figurez-vous, mon lieutenant, qu'elle s'est amenée avec 2 grosses malles, comme pour une installation. » Le lieutenant souffla encore avec agacement, et Schweik imita son maître. « Quoi ? » s'écria tout à coup le lieutenant, en percevant seulement alors la remarque au sujet des 2 malles. « Ben, je vous déclare avec obéissance, mon lieutenant, que ce sera une dure affaire. Il y a 2 ans, dans la rue Wojciechowska, une jeune fille s'est installée chez un tapissier de ma connaissance. Il n'arrivait pas à la voir dehors et a dû, pour la faire sortir, s'asphyxier tous les 2 au gaz. Avec les femmes, on a du chien d'or. C'est que je les connais. » « Une dure affaire, » répéta le lieutenant. Et il ne croyait pas si bien dire. la situation du cher Henri n'était pas vraiment réjouissante. Une dame poursuivie par son mari voulait absolument habiter chez lui au moment même où il se préparait à recevoir Madame Picard de Trébon, qui le comblait régulièrement de ses faveurs 2 jours par trimestre quand il y venait à Prague pour faire ses achats. Et le surlendemain, il attendait aussi une nouvelle amie. Cette vierge forte, après avoir réfléchi pendant 8 jours, car elle devait 1 mois plus tard se marier avec un ingénieur, avait enfin promis au lieutenant de couronner sa flamme. Le lieutenant restait assis, tête basse, plongé dans un silence méditatif. Mais ne s'avisant de rien, il finit par s'asseoir à la table et écrire sur une feuille de papier ministre. « Chère Cathy, je suis de service jusqu'à 9 heures du soir, je reviendrai à 10. Je te prie de considérer mon appartement comme le tien. Quant à Schweik, mon ordonnance, je lui ai donné l'ordre de t'obéir en tout. Ton Henri. » Vous donnerez, dit le lieutenant, cette lettre à la dame. Je vous commande de vous comporter envers elle avec tact et respect, et de satisfaire tous ses désirs qui doivent être des ordres pour vous. Je veux que vous vous conduisiez avec galanterie et que vous la serviez exactement. Voici 100 couronnes dont vous me ferez le compte. Elle vous enverra probablement chercher quelque chose. En tout cas, il faut la faire déjeuner, dîner et ainsi de suite. Achetez aussi 3 bouteilles de vin et 1 boîte de cigarettes Memphis. C'est tout pour le moment. Vous pouvez aller, mais je vous recommande encore une fois de faire tout ce qu'elle voudra, sans même qu'elle ait besoin de vous le demander. » La jeune femme, qui avait déjà perdu tout espoir de revoir Schweik, eut la surprise de le voir sortir de la caserne et se diriger vers elle, une lettre à la main. Schweik salua, lui tendit la lettre et déclara « Selon l'ordre de mon lieutenant, madame, je dois me comporter envers vous avec tact et respect, satisfaire tous vos désirs et faire tout ce que vous voudrez, sans même que vous ayez besoin de me le demander. Je dois vous donner à manger et ainsi de suite. » Le lieutenant m'a remis 100 couronnes pour cela, mais sur ces 100 couronnes, il faut que j'achète 3 bouteilles de vin, 1 bouteille de 1 boîte de Memphis. » Après avoir parcouru la lettre, la jeune femme, qui avait retrouvé sa décision, ordonna à Schweik de héler un fiacre et de retourner avec elle à la maison. Schweik dut se mettre à côté du cocher. Arrivée, elle entra tout à fait dans le rôle de la maîtresse de maison. Elle commença par faire porter ses malles dans la chambre à coucher. Schweik dut battre les tapis et enlever la poussière. Une petite toile d'araignée excita la fureur de la ménagère. Toute cette activité trahissait bien son intention de se retrancher pour longtemps dans la position stratégique que lui offrait la chambre à coucher du lieutenant. Schweik suait sang et eau. Quand il eut fini de battre les tapis, elle lui enjoignit d'enlever les rideaux pour les épousseter et ensuite de laver les fenêtres de la chambre. Quand cela fut fait, elle lui commanda de changer les meubles de place, ce qui lui permit de donner libre cours à ses nerfs. Schweik poussait les meubles d'un endroit à l'autre sans qu'elle fût jamais contente. Elle inventait à chaque instant un arrangement nouveau. Bientôt, l'appartement fut sans dessus-dessous et la visiteuse sentit faiblir son énergie organisatrice. Elle prit alors de la literie fraîche dans la commode et garnit amoureusement les oreillers et l'édredon. Elle apportait à cette occupation 1000 tendres soins et en se penchant sur le lit, ses narines palpitaient de convoitise. Ensuite, elle envoya Schweik charger le déjeuner et le vin, et pendant son absence, elle passa un peignoir de soie transparente qui la rendait irrésistiblement séduisante. Au déjeuner, elle but toute une bouteille de vin et fuma quantité de cigarettes. Le repas fini, elle s'allongea sur le lit, tandis que Schweik savourait avec délice un quignon de pain de régiment trempé dans un verre de liqueur sucrée. Tout à coup, il entendit qu'elle l'appelait. « Schweik, Schweik !» Schweik ouvrit la porte de la chambre à coucher et aperçut la jeune femme étendue sur le lit dans une attitude languissante. « Entrez !» Schweik s'approcha du lit. Son occupante mesurait du regard avec un singulier sourire les épaules trapues et les fortes cuisses de l'ordonnance. Rejetant l'aérien tissu qui voilait et protégeait ses charmes, elle commanda d'un ton sévère « Ôtez votre soulier et votre pantalon, venez !» C'est ainsi que le brave soldat Schweik put annoncer au lieutenant à son retour de la caserne « Je vous déclare avec obéissance, mon lieutenant, que, selon votre ordre, j'ai servi exactement ma dame et que j'ai satisfait tous ses désirs. » « Ah, je vous remercie, Schweik, et est-ce qu'elle a eu beaucoup de désirs ?»« Oh, six environ, mon lieutenant, » répondit Schweik. « Madame dort à point fermé, le trajet l'aura fatigué. Oh, rassurez-vous, mon lieutenant, je fais tout ce qu'elle a voulu, sans même qu'elle ait eu besoin de me le demander. »
Tandis que des masses d'hommes armés enfoncés dans les forêts qui bordent le Dujanets et le Raab demeuraient sous une grêle d'obus, et que les pièces de gros calibre déchiraient des compagnies entières, qu'engloussait aussitôt le sol des Carpates, et qu'à tous les coins de l'horizon flambaient villes et villages, le lieutenant Lucas et son fidèle Schweik jouaient d'assez mauvais gré leur rôle dans l'idylle imposée par la dame qui avait fui son mari pour tenir le ménage du lieutenant. La dame, sortant tous les jours pour ses petites emplettes, le lieutenant en profitait pour délibérer avec Schweik des mesures à prendre.
Ben, ce qui me semble préférable à tout, mon lieutenant, serait d'annoncer qu'elle est ici à son mari, qu'elle a quitté, et qu'il la cherche, paraît-il, d'après la lettre que je vous ai apportée. Faudrait lui envoyer une dépêche disant qu'elle n'est chez vous, qu'il a qu'à venir la chercher. On m'a parlé d'un cas du même genre, qui s'est produit l'an dernier dans une villa près de Versailles. Cette fois-là, c'est la femme qui avait alerté son mari qui s'est empressé d'accourir et de les gifler tous les deux. C'était deux civils, mais dans les mêmes conditions, on n'osera rien faire à un officier. Du reste, vous n'êtes absolument pas responsable de rien puisque vous m'avez invité personne et que cette dame est partie de son propre mouvement. Vous verrez qu'un télégramme comme ça aura un effet merveilleux. « Eh, s'il y a des voies de fête !»« Ben, c'est un homme très instruit, » observa le lieutenant Lucas. « Je le connais bien, c'est un négociant de houblon en gros. Évidemment, il faut que je lui parle. Mais en voyant le télégramme. » Celui-ci était rédigé en ces termes. « L'adresse actuelle de votre épouse est... » Et il indiquait le logis du lieutenant. C'est ainsi que Madame Cathy eut un beau jour la désagréable surprise de voir entrer en coup de vent le marchand de houblon. Et pendant que Madame Cathy, conservant toute sa présence d'esprit, faisait les présentations, mon mari, le lieutenant Lucas, le visage du nouveau venu exprimait la bonne humeur et un empressement respectueux. Le lieutenant ne voulut pas être en reste de politesse en disant « Mais veuillez vous asseoir, monsieur Wendler. » Et tirant de sa poche un étui à cigarette, il lui en offrit une. Le distingué négociant en houblon prit correctement une cigarette et, bientôt entouré d'un nuage de fumée, dit posément « Comptez-vous aller au front sous peu, mon lieutenant ?»« J'ai demandé à être transféré au 91e de ligne à Bouliéliovitché, et je le rejoindrai dès que j'aurai fini mon cours à l'école des volontaires d'un an. Nous avons un très grand besoin d'officiers de réserve, et nous constatons avec peine que peu de jeunes gens aujourd'hui se prévalent de leur droit au volontariat d'un an. Appelés sous les drapeaux, ils préfèrent faire leur service comme simples fantassins qu'acquérir l'honneur d'être officiers. Le commerce du houblon a énormément souffert du fait de la guerre, mais je crois qu'il ne durera plus longtemps, dit le marchand en considérant tour à tour sa femme et le lieutenant.
« La situation de nos armées est très bonne, » répondit le lieutenant Lucas.
« Personne ne doute aujourd'hui que la guerre ne doive finir par la victoire des puissances centrales. La France, la Grande-Bretagne et la Russie ne pourront jamais tenir contre le bloc de granit austro-turco-allemand. Il est vrai que nous avons essuyé quelques insuccès locaux. Mais aussitôt que nous avons brisé le front russe entre les Carpates et le Dunajec, moyen le fin des hostilités sera assurée à bref délai. Les Français sont sur le point de perdre tout le reste et les armées allemandes entreront bientôt dans Paris. Il n'y a aucun doute. En dehors de ça, nos opérations en Serbie continuent à se développer à notre grande satisfaction. On s'explique généralement mal le repliement de nos régiments, qui n'est en somme qu'un changement de position, fruit d'une habile stratégie. Du reste, nous en verrons bientôt la preuve. Veuillez suivre sur cette carte. » Le lieutenant Lucas prit doucement le marchand de houblon par le bras et le conduisit devant une grande carte du front russe qui pendait au mur. Les Beskides de l'Est nous donnent une excellente ligne d'appui, de même que les divers secteurs des Carpates, comme vous voyez. Il nous suffit de frapper un grand coup contre le front russe en cet endroit et nous nous arrêterons qu'à Moscou. La fin de la guerre est plus proche que nous ne le pensons. Mais la Turquie, fit le marchand, qui se demandait comment amener la conversation sur l'objet de sa visite. « Oh, les Turcs tiennent ferme, » répondit le lieutenant, en invitant son hôte à se rasseoir. Ali Bey, le président de la Chambre des députés, est arrivé à Vienne avec Ali Bey. Le marshal Liman von Sanders est nommé commandant en chef de l'armée turque des Dardanelles. Von der Klotz, pacha, a quitté Constantinople et se trouve à Berlin. Enver Pacha, le contre-amiral Yuzdom Pacha et le général Jvevan Pacha ont été décorés par notre empereur. Ce grand nombre de décorations, en si peu de temps, est un très bon signe. Il restait assis en silence. Enfin, le lieutenant jugea bon de reprendre la parole. « Quand êtes-vous arrivé à Prague, monsieur Vandler ?»«
Ce matin.
Bon, »« Je suis content que vous m'ayez trouvé chez moi, parce que l'après-midi, j'ai mon cours à la caserne et toutes les nuits, je suis de service. Ainsi, mon appartement est, pour ainsi dire, inhabité, ce qui m'a permis d'offrir l'hospitalité à madame Vandler. Ici, personne ne la dérange, elle sort et elle rentre à son gré. » Entre vieux camarades que nous sommes. » Le marchand de houblon toussa.
« Cathy est évidemment une femme bizarre, monsieur, dit-il, et je vous remercie mille fois de tout ce que vous avez fait pour elle. »
Tout à coup, l'envie la prend de venir à Prague. Elle saute dans le premier train en disant simplement au domestique qu'elle va soigner ses nerfs. Lorsque j'étais en voyage, je suis rentré, la maison était vide et Cathy envolée.
Et s'efforçant de prendre une expression de franchise, il menaça du doigt sa femme et lui demanda, avec un sourire un peu forcé,
« Ah, tu t'étais dit sans doute, puisque mon mari voyage, j'ai bien le droit d'en faire autant. Bien sûr, mais tu n'avais pas pensé. »
Craignant que la conversation ne prît une tournure désagréable, le lieutenant mena encore une fois son rival devant la carte géographique et lui signala certains endroits marqués au crayon de couleur.
« Ah, tout à l'heure, j'oubliais de vous faire observer un curieux détail. Vous voyez cette grande ligne recourbée en arc vers le sud-est qui forme ici une sorte de tête de pont constituée par ce groupe de montagnes. Toute l'offensive des Alliés porte sur ce point stratégique d'une extrême importance. Notre tâche, à nous, est de nous emparer du chemin de fer qui lie ce pont avec la principale ligne de défense de l'ennemi pour occuper la communication entre l'aile droite et l'armée du Nord sur les bords de la Vistule. Est-ce que je m'explique assez clairement ? »
Le marchand de houblon s'empressa d'affirmer qu'il avait tout très bien compris. Mais il avait compris, surtout, que le lieutenant voyait dans le reproche fait à sa fantasque épouse une allusion à leurs amours adultères.
Il ne se départit donc point de son calme et de sa politesse, et reprit sa place devant la table.
Cette guerre, ajouta-t-il, nous a fait perdre tous les débouchés de notre houblon à l'étranger. La France, la Grande-Bretagne, la Russie et les Balkans, autant de pays perdus pour notre exportation. Il ne nous reste que l'Italie, mais je crains qu'elle n'entre dans la danse elle aussi. Ce qui me console un peu, oui, vous savez que quand nous aurons gagné la guerre, nous pourrons dicter les prix dans le monde entier.
L'Italie gardera strictement sa neutralité, dit le lieutenant pour le tranquilliser. C'est...
Mais pourquoi alors, interrompit le marchand, pris d'une colère subite, car tout, le houblon, l'épouse et la guerre, s'embrouillaient dans sa tête, ne programme-t-elle pas loyalement qu'elle est liée à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne par les traités de la Triple Alliance? J'avais cru que l'Italie allait attaquer la Serbie. Alors la guerre serait finie depuis longtemps. Mais aujourd'hui, bon houblon, pourri en magasin, les commandes à l'intérieur sont insignifiantes, l'exportation est nulle et l'Italie reste neutre. Alors pourquoi l'Italie, je vous le demande un peu, avait-elle encore renouvelé en 1912 la Triple Alliance? Et le ministre italien des Affaires étrangères, monsieur le marquis di San Giuliano, mais que fait-il ce monsieur? Est-ce qu'il dort ou quoi? Savez-vous ce que je gagnais par an avant la guerre et ce que je gagne maintenant?
Il s'interrompit, puis fixant toujours son regard furieux sur le lieutenant, qui s'amusait placidement à souffler des anneaux de fumée qui se rompaient les uns contre les autres, il reprit.
Ne vous imaginez pas que je ne suive pas les événements. Pourquoi les Allemands ont-ils reculé à la frontière quand ils étaient déjà devant Paris? Et pourquoi ce duel d'artillerie acharné dans les régions entre la Meuse et la Moselle?
Savez-vous qu'à Combes et à Meuvres, près de Marche, trois brasseries sont brûlées, trois brasseries qui nous commandaient 500 sacs de houblon par an? Et dans les Vosges, une brasserie aussi est détruite, celle de Hartmannsweiler, et une autre encore à Niederspach, près de Mulhouse. Ça fait en tout 1200 sacs en moins par an. La brasserie de Klaus Heureux a été 6 fois le théâtre de violents combats entre les Allemands et les Belges, 350 sacs par an.
Mais son agitation augmentait tellement qu'il n'était plus en état de parler.
Il se leva, s'approcha de sa femme et lui dit « Allez, Cathy, tu vas t'en aller avec moi, chez nous, habille-toi. »
« Vous ne pouvez pas vous imaginer combien tous ces événements m'énervent, ajouta-t-il pour s'excuser. Dans le temps, j'étais beaucoup plus calme. » Madame Vandeleur partit dans la chambre à coucher pour se vêtir, et son époux dit encore au lieutenant « Oh, c'est pour la première fois qu'elle me plaque comme ça. L'année dernière, elle est partie avec un professeur et je les ai retrouvés qu'à Zagreb. J'ai profité de l'occasion pour vendre à la brasserie municipale de Zagreb 600 sacs de houblon. En général, nous exportions des quantités de houblon dans l'Europe méridionale. Nous faisions des affaires d'or, même à Constantinople, et aujourd'hui, nous voilà à moitié ruinés. Oh, si notre gouvernement, comme on le dit, prend des mesures pour restreindre la fabrication de la bière à l'intérieur de la monarchie, il nous achèvera. »
Allumant une cigarette que le lieutenant lui offrit, il dit « Oh, j'ai encore de la chance de n'avoir pas d'enfant. C'est désolant, tous ces soucis de famille. » Il se tut. Déjà, Madame Cathy, prête au voyage, apparut sur le seuil.
« Mais comment ferons-nous pour mes mâles ?» dit-elle.
« Bon, on viendra les chercher tout à l'heure. J'ai déjà fait le nécessaire, » répondit le marchand de houblon, soulagé que tout se fût passé sans orage. « Si tu veux encore faire quelques emplettes, il est grand temps de nous mettre en route. Allez, le train part à 2h20. »
Monsieur et Madame Vandeleur prirent amicalement congé. Le mari surtout était heureux de s'en aller. Il manifesta sa joie au moment de sortir.
« Oh, si jamais, à ce que je ne vous souhaite pas, vous êtes blessé, venez passer votre convalescence chez nous. Nous vous guérirons de notre mieux. »
Revenu à la chambre à coucher où Madame Cathy s'était habillée pour le voyage, le lieutenant trouva sur le lavabo 4 coupures de 100 couronnes et le mot suivant. «
Monsieur,
Vous n'avez pas pris mon parti devant mon mari, ce triple idiot. Vous lui avez permis de m'enlever de chez vous comme on enlève un objet oublié. Vous ne vous êtes pas gêné pour faire observer à mon crétin de mari que vous m'avez offert l'hospitalité dans votre agréable foyer. J'espère que les frais que je vous ai occasionnés ne dépassent pas les 400 couronnes si jointes et que je vous prie de partager avec votre ordonnance. » Le lieutenant Lucas réfléchit un moment et prit ensuite le parti de déchirer le poulet en petits morceaux. Il considéra en souriant l'argent qui traînait sur le lavabo et constatant que l'amoureuse frustrée avait oublié son peigne, prit cet objet et le joignit à sa collection de reliques. Schweik ne rentra que dans l'après-midi, ayant passé son temps à chercher le griffon d'écurie. « Vous avez de la chance, Schweik, vous savez, lui dit le lieutenant, cette dame qui a logé chez nous est déjà partie. Son mari l'a emmenée. Et en récompense de tous les services que vous lui avez rendus, elle a laissé 400 couronnes pour vous sur le lavabo. Il est nécessaire de la remercier, ou plutôt son mari, parce que cet argent est naturellement à lui. Elle le lui avait flibusté pour pouvoir se mettre en route. Je vais vous dicter la lettre. » Et il dicta « Très honoré monsieur, je vous prierai de bien vouloir exprimer à madame votre épouse mes plus sincères remerciements pour les 400 couronnes dont elle a bien voulu récompenser les faibles services que j'ai pu lui rendre lors de son séjour à Prague. Mais comme tout ce que j'ai fait pour elle a été fait de bon cœur, il m'est impossible d'accepter cette somme et je vous la... » « Eh bien, écrivez donc, Schweik, ce que vous avez, nous disons. »« Et je vous la... » répéta Schweik d'une voix tremblante et sombre. « Et je vous la renvoie donc, très honoré monsieur, en y joignant l'expression de ma plus profonde considération. Baisez pour moi la main de madame votre épouse. Joseph Schweik, ordonnance du lieutenant Lucas. » C'est tout, fit le lieutenant. « Ben, vous déclare avec obéissance qu'il manque encore la date. »« Bon, bien, mettez Prague le 20 décembre 1914. »« Maintenant, prenez cette enveloppe, écrivez à l'adresse que voici, et allez porter la lettre et l'argent à la poste. » Et le lieutenant se mit à siffler un air de l'opérette « La divorcée ».« Attendez un peu, Schweik, » demanda-t-il, comme l'autre s'en allait. « Avez-vous des nouvelles de notre griffon ?»« J'en ai déchiré, déniché un, hein, mon lieutenant, une bête superbe. Mais il sera très difficile de l'avoir. Peut-être que vous l'aurez déjà demain. C'est un chien qui mord. »
Le lieutenant Lucas n'avait pas entendu les dernières paroles de Schweik, très importantes pourtant. « C'est un chien qui pour mordre ne craint personne. » aurait voulu ajouter Schweik, mais à la fin... Il s'était dit que cela ne regardait en rien son maître. « Puisqu'il veut son chien, il l'aura, » conclut-il. Il est évidemment facile de dire « Trouvez-moi un chien. » Les propriétaires de chiens surveillent leurs bêtes de très près, même si ce n'est que des cabots. Un pauvre toutou, sans aspect, bon tout au plus à chauffer les pieds d'une petite vieille, lui aussi est tout comme un autre, aimé et protégé par sa maîtresse. De plus, un chien digne de ce nom est doué d'une intuition qui le met en garde et le prévient qu'un beau jour, on essaiera de le voler son maître. Et un chien qui se respecte vit sans cesse sous la menace d'être volé et est toujours prêt à parer à cette éventualité qui s'est imminente. À la promenade, quand il s'éloigne un peu trop de son maître, il est gai et joueur, au commencement. La vie lui paraît belle, comme un jeune homme, sage qui jouit de ses vacances après avoir passé son baccalauréat. Mais tout à coup, sa bonne humeur s'assombrit. Il se rend compte qu'il a perdu son chemin. Alors il se désespère. Effrayé, il court dans tous les sens. Il flaire, il hurle et serre sa queue entre ses jambes, couche ses oreilles en arrière et galope dans l'inconnu. S'il pouvait parler, il crierait volontiers « Oh Jésus-Maria, je sens qu'on va me voler !» Êtes-vous allé quelquefois visiter un chenil et avez-vous vu de ces chiens en peine? Ce sont tous des chiens volés. Dans toutes les grandes villes, il y a des gens qui font du vol des chiens leur unique métier. Il existe une race de chiens nains, des amours de ratiers, qui tiennent facilement dans un manchon ou une poche de par-dessus. Mais cet abri que l'on croirait inexpugnable ne défend pas ces pauvres petits des voleurs. Les dogues allemands, tachetés, qui gardent les villas de la banlieue, se volent la nuit. Un chien policier sera volé d'habitude à la barbe des détectives. Vous vous promenez avec votre toutou en laisse, et tout d'un coup, celle-ci est coupée, et vous contemplez avec abrutissement la laisse veuve de son chien. Sur le nombre total des chiens que vous rencontrez dans la rue, il y en a 50% qui ont changé plusieurs fois de maître. Et il peut arriver à quelqu'un de racheter son propre chien volé quelques années auparavant, si petit qu'ensuite vous ne le reconnaissez plus. Le moment le plus dangereux est celui où vous sortez l'animal pour ses petits et ses grands besoins. Les grands besoins sont périlleux. Voilà pourquoi le chien, surpris à cette occupation, est toujours plein de méfiance et jette autour de lui des regards craintifs. Il existe encore bien d'autres procédés pour chiper les chiens. Le vol pur et simple, le vol à l'esbouffe est le moyen qui consiste à attirer la pauvre bête dans un guet-apens. Le chien est un animal très fidèle, disent les livres de lecture pour les écoliers et les traités d'histoire naturelle. Mais faites sentir à un chien, même le plus attaché à son maître, un bout de saucisson de cheval, et il est perdu. Il oublie immédiatement la présence du maître qui marche à côté de lui, se retourne délibérément vers le saucisson tentateur. Il en bave, il renifle avec volupté cette odeur délicieuse et remue la queue en attendant qu'on lui jette sa proie. À Malastrana, au bas de l'escalier qui monte au château du Hadarkani, se trouve une petite taverne populaire. Ce jour-là, deux hommes étaient assis au fond de la salle dans un coin sombre, un militaire et un civil. Mystérieux, les têtes penchées, ils se parlaient tout bas, semblables à des conspirateurs de la République vénitienne. « Tous les jours, vers 8 heures, disait le civil, la boniche le promène au coin de la place Ravislek, en face du parc. Tu sais que c'est une bête qui mord à droite et à gauche, rien à faire pour le caresser. » Et se penchant encore davantage vers le soldat, le civil lui sembla, souffla à l'oreille, « Il n'aime pas même la saucisse. »« Et la saucisse grillée, non plus. » Les deux hommes crachèrent. « Et qu'est-ce qu'il bouffe alors, ce fils de garce ?»« Ben, je sais pas, moi. Il y a des kleps comme ça qui sont gâtés, gavés, comme un archevêque. » Le soldat et le civil trinquèrent et le civil continua. « Une fois, j'avais besoin d'un loulou de Poméranie et j'ai appris qu'il y avait moyen d'en faire un aux environs de la Klabokka. C'était encore une fine gueule qui ne voulait pas de saucisses. Alors je me suis esquinté les pattes après lui pendant 3 jours. À la fin, j'ai demandé carrément à la bonne femme qui se baladait avec le kleps ce qu'il mangeait pour être si batte. La bourgeoise, flattée, m'a confié qu'il aimait surtout les côtelettes de porc. Moi, n'est-ce pas, je me suis dit qu'il aimerait encore mieux quelque chose de plus tendre et je lui ai acheté une escalope de veau. Eh ben, mon vieux, c'est comme je te le dis, ce salaud-là y a pas touché. Il a fallu que j'achète une côtelette, et alors, là, il s'est décidé. Je me suis sauvé, le chien sur mes talons. La vieille hurlait comme si on lui coupait la tête, mais il voulait rien savoir, il voyait que la côtelette. Le lendemain, il était déjà au chenil de Klamovka. Je lui ai fait un brin de toilette, et après 3 coups de pinceau sur le museau, il était à ne plus reconnaître. Avec tous les autres kleps, la saucisse de cheval m'a toujours bien réussi. Je crois que tu ferais bien de t'informer d'abord auprès de la boniche. T'es soldat et beau garçon, elle pensera pas à se méfier. Moi, il n'y a rien eu à faire. Quand je lui ai demandé ce que le Klebs bouffait, elle m'a dit « Ça vous regarde pas ». Elle m'a jeté un coup d'œil comme un poignard. Le poing très joli. Bon, je le parais plutôt, et avec toi, ça ira certainement. Écoute-moi, c'est bien un griffon d'écurie. Je voudrais pas faire de gaffe, parce que le lieutenant, il veut que cette race-là. Mais non, je te dis que c'est un chien épatant. Tout à fait ton affaire. Et c'est un griffon d'écurie, aussi vrai que toi t'es chevêque, et moi Molaknik. Tâche moyen de savoir ce qu'il bouffe, et tu l'auras sans faute. Les deux amis trinquèrent encore une fois. Ils se connaissaient depuis longtemps. En temps de paix, quand Schweik gagnait sa vie en vendant des chiens, Bladnik était son fournisseur attitré. Ce collectionneur de chiens à bon marché était vraiment un spécialiste. On racontait qu'il achetait sous main à la fourrière de Pancras des chiens soupçonnés d'avoir la rage et qu'il les revendait après avoir habilement camouflé, sinon guéri. Bon, on disait qu'il lui était souvent arrivé de présenter les symptômes de la rage et que tout le monde le connaissait à l'Institut Pasteur de Vienne. Aujourd'hui, il considérait comme un devoir d'amitié de rendre ce service à Schweik sans en tirer aucun profit. Il savait le nom de tous les chiens de Prague. Sa longue conversation avec Schweik avait lieu à voix basse. Quelques mois auparavant, Blavnik avait emporté sous son paletot le ratier du patron de la taverne et il craignait de se faire remarquer. Le ratier, qui était alors tout petit, s'était laissé prendre un biberon que Blavnik lui avait discrètement tendu sous la table. La pauvre petite bête, s'étant crue au sein de sa mère, n'avait fait aucun bruit pendant qu'on emportait. Par principe, Blavnik ne voulait que des chiens de race, et ses connaissances approfondies lui auraient mérité un poste d'expert juré auprès du tribunal de Prague. Tous les éleveurs renommés se fournissaient chez lui, sans parler de sa clientèle privée, qui était aussi très nombreuse. Il arrivait souvent que les chiens, qui devaient à ses soins d'avoir changé de maître, le poursuivissent dans la rue. Pour se venger, il se frottait contre lui et traitait son pantalon comme une borne. Le lendemain de la conversation secrète des deux hommes, on put voir Schweik se promener au coin de la Parchalisek à l'endroit indiqué par son camarade. Il attendait la servante au griffon d'écurie. Ce fut le chien qui apparut le premier. Il passa, la moustache et le poil en bataille, le regard éveillé. Il était gai, comme tous les chiens qui jouissent d'un moment de liberté après avoir fait leurs petits besoins. Il s'amusait à troubler des moineaux qui se préparaient à déguster leur petit déjeuner de fiente de cheval. Puis Schweig vit venir la servante. C'était une fille d'un certain âge, dont les cheveux formaient une chaste couronne autour de sa tête. Elle sifflait pour appeler le chien. Elle faisait tourner en l'air la chaîne du chien et une élégante petite cravache. Schweik lui adressa la parole. « Pourriez-vous me dire, mademoiselle, par où on va à Ziskrof, s'il vous plaît ?» La servante s'arrêta et l'examina curieusement pour voir s'il ne se moquait pas d'elle. Mais, vite rassurée par le regard loyal de Schweik, elle ne douta plus que le petit soldat lui demandait son chemin pour de bon. Ses yeux s'adoucirent et l'expliqua à Schweik avec empressement la direction qu'il avait à prendre. « Je viens de transférer à Prague avec mon régiment, » dit Schweik. « Je suis pas d'ici, alors je suis de la campagne, moi. Vous n'êtes pas non plus de Prague, n'est-ce pas ?»« Ah, moi je suis de Vulhani. » « Ah ben, on est des pays, » répondit Schweik, « je suis presque du même patelin, je suis de Protivine. » Les connaissances que Schweik possédait sur la topographie de la Bohême du Sud, connaissances acquises par hasard lors des manœuvres auxquelles il avait participé au temps de son service militaire à la Boudeyovitché, réjouirent le cœur de la servante.
Alors vous connaissez, dit-elle à Protivine, le boucher Psichard qui a sa boutique sur la place.
Bien sûr, c'est mon frère. Tout le monde l'aime chez nous. Oh, vous savez, insista Schweik, parce qu'il est très gentil, très poli. Il a de la bonne marchandise et il vend bon poids.
Écoutez, mais est-ce que vous n'êtes pas le fils de Yaresh? Demanda la servante, se prenant de sympathie pour ce soldat inconnu.
Si.
Et de quel Yaresh? Celui de Protiville ou celui de la Lycée?
Celui de la Lycée.
Ah, est-ce qu'il vend encore de la bière en bouteille?
Ben oui.
Bon, il doit avoir 60 ans bien sonnés, hein?
Ben, cette année-là, au printemps, il a eu 68 ans, pensez, répondit Schweik avec une calme assurance. Il continue à livrer ses bouteilles avec une petite voiture, mais il vient d'acheter un chien qui lui sert bien dans son commerce. Le chien quitte pas la voiture et ils sont bien contents tous les deux. C'est un chien tout juste comme celui qui poursuit les moineaux là-bas. Vous y mettez aussi, trouvez-vous pas?
Il est à nous, expliqua la nouvelle connaissance de Schweik. Je suis servante chez un colonel. Vous ne connaissez pas votre colonel?
Oh si, je le connais, c'est même un type ordinaire, dit Schweik. À mon régiment de Boudéjovitchen, nous en avions aussi un comme ça.
Il est très sévère, vous savez, notre colonel. La dernière fois que nos soldats ont été battus en Serbie, il est rentré fou de colère, il a cassé toute la vaisselle à la cuisine. Il m'a menacé de me donner mes bijoux.
Alors il est à vous, ce beau petit chien, interrompit Schweik. C'est dommage que mon lieutenant supporte pas le chien à la maison. Moi, je les aime beaucoup.
Il se tue, et tout d'un coup,
un chien comme ça mange pas n'importe quoi, pour sûr.
Oh, je vous crois, notre luxe est très gourmand. Oh, pendant un certain temps, la viande ne lui disait rien du tout, il voulait pas en manger. Oh, maintenant, il a changé de goût.
Et qu'est-ce qu'il aime le mieux comme viande?
Du foie. Du foie cuit.
Oh, du foie de veau ou du foie de porc?
Oh non, ça lui est bien égal, fit la payse de Schweik en souriant, parce qu'elle croyait qu'il avait essayé de plaisanter. Ils se promenèrent encore un bon moment. Enfin, le chien vint les rejoindre. La servante l'attacha à la chaîne. Il devint tout de suite très familier avec Schweik, voulant déchirer au moins le bas de son pantalon. Mais la muselière l'en empêchait. Soudain, comme s'il eût flairé les intentions de Schweik, il s'assombrit et se mit à marcher, l'oreille basse à côté de lui. De temps en temps, il levait sur Schweik un regard torve, comme s'il voulait exprimer « Je sais ce qui m'attend, ce n'est pas gai du tout ». Schweik apprit encore que la servante sortait aussi le chien tous les soirs vers 6 heures au même endroit. Qu'elle avait retiré sa confiance à la population mâle de Prague parce que, ayant mis une fois une annonce dans un journal pour trouver un mari, un serrurier de Prague lui avait répondu en lui promettant de l'épouser et avait fini par disparaître avec 800 couronnes, le petit pécule de la fiancée. Elle lui dit aussi qu'à la campagne, les gens étaient plus honnêtes, que si elle devait se marier, elle prendrait pour mari un paysan, mais qu'elle y penserait qu'après la guerre seulement, parce que les mariages de guerre étaient une bêtise. Les femmes de soldats devenaient veuves pour la plupart. Schweik lui donna le ferme espoir qu'elle le reverrait vers 6 heures et s'en alla informer son ami Blanik que le chien mangeait toutes sortes de foie. Ben, « Je vais le régaler de foie de bœuf, » décida Blanik. « C'est comme ça que j'ai déjà eu le Saint-Bernard au fabricant Vidrard, un Klebs qui connaissait que son maître. Mais demain, t'auras ton griffon sans faute. » Blanik tint parole. Le lendemain matin, Schweik avait à peine terminé la chambre, qu'il entendit la voix d'un chien à la porte, et son camarade pénétra dans l'antichambre en traînant par le collier le griffon dont la peur hérissait le poil plus que ne l'avait fait la nature.
Il roulait des yeux sauvages, aussi effrayants qu'un tigre affamé, qui, de l'intérieur de sa cage, fixe avidement un visiteur bien nourri du jardin zoologique. Il grinçait les dents et grognait comme pour déchirer et tout dévorer. Les deux amis attachèrent le griffon à un pied de la table de la cuisine et Bladig raconta son entreprise. « Bien, j'ai passé à côté de lui avec mon paquet de foie à la main. Il a flairé tout de suite et il a sauté sur moi. Je ne lui ai rien donné et j'ai suivi mon chemin, le kleps à mes trousses. Au coin du parc, j'ai tourné dans la rue Bredowska et je lui ai jeté un premier morceau. Oh, il l'a bouffé en marchant sans cesser de me tenir à l'œil. J'ai pris ensuite la rue Jindrinska où je lui ai encore donné quelque chose. Puis quand il a eu tout bouffé, je l'ai attaché à ma chaîne et je l'ai traîné à travers toute la place Venceslas et la colline de Milochandi jusqu'à Vlerkovice. On ne me demande pas ce qu'il a fait en route. À un moment donné, pendant que nous traversions la voie du tramway électrique, il s'est couché sur les rails et il n'a pas voulu bouger. Probable qu'il voulait se suicider. Tiens, j'ai apporté aussi un pédigré en blanc que j'ai acheté à la papeterie Fuchs. Il s'agit de le remplir et comme tu t'y connais, mon vieux Schweik. Non, non, il faut que ce soit écrit de ta main. Mais dis qu'il est originaire du chenil von Bloff. Comme père a inscrit Arnheim von Kallenberg. Comme mère, Emma von Trostenstorff par Sirkrit von Busenthal. Le père a eu le premier prix à l'exposition des griffons d'écurie à Berlin en 1912. La mère, la médaille d'or, décernée par la Société pour l'élevage des chiens de race de Nuremberg. Quel âge il a, à ton avis? D'après ses dents, il doit avoir 2 ans. Alors marque 1 an et demi. Oh, il est mal coupé, Schweik, tu sais. Regarde voir ses oreilles. Bon, on aura toujours le temps de réparer ça quand il sera habitué ici. Pour le moment, on va le laisser bien tranquille. Sans ça, il nous embêterait encore davantage. Le captif s'essoufflait à grogner, tournait en rond, et enfin se coucha, la langue pendante, et attendit, fatigué, la suite des événements. Petit à petit, il se calma, tout en gémissant par moments. Schweik lui tendit le reste du foie qui avait servi d'appât. Mais le griffon n'y prit pas garde. Il boudait et narguait les deux hommes comme s'il voulait dire oh, « Vous m'avez eu une fois déjà, vous pouvez bouffer votre foie vous-même. » Résigné, il faisait semblant de somnoler. Tout à coup, une idée lui ayant passé par la tête, on le vit faire le beau et demander quelque chose avec les pattes de devant. Dans cette posture, il s'éloignait jusqu'au bout de sa chaîne. Schweik resta invincible. « Veux-tu bien te coucher ? » cria-t-il. Le pauvre prisonnier se rallongea en marmottant plaintivement. « Quel nom allons-nous donner dans son pédigré ?» questionna Bladnik. « Il s'appelle Lux, il faudra lui donner un nom à peu près pareil pour qu'il y réponde vite. » Ben, on l'appellera Max, si tu veux. Oh, regarde comme il dresse ses oreilles. Debout, Max !» L'infortuné griffon, dépouillé et de son foyer et de son nom, se leva et attendit. Détachons-le pour voir ce qu'il va faire, décida Schweik. Libre, il marcha vers la porte où il fit 3 courts aboiements. Se fiant sans doute pour être délivré à la générosité de ses persécuteurs. Mais, comme il restait inexorable, il s'avisa de faire une petite mare près de la porte, persuadé qu'elle allait enfin s'ouvrir. Il se rappelait que, quand il était tout petit, le colonel, féru de discipline, lui inculquait les notions élémentaires de la propreté en l'expulsant de la chambre après chaque oubli. Schweik observa simplement. « Ah, tu vois ce qu'il est malin, ce petit bout de jésuite !» Et il lui donna un coup avec sa ceinture en lui fourrant si bien le museau dans la mare que pendant un quart d'heure il dut se lécher pour se nettoyer. Humilié, l'ex-luxe pleurnichait et courait à travers la cuisine, reniflant avec désespoir ses propres traces. Tout à coup, il revint vers la table, dévora sombrement le foie qui traînait par terre, se coucha près du fourneau et s'assoupit enfin. « Qu'est-ce que je te dois ?» demanda Schweik à Blahnik quand celui-ci voulut s'en aller. « Oh non, c'est pas la peine d'en parler, Schweik, » dit gentiment Blahnik. « Je ferai tout, moi, pour un vieux camarade comme toi, surtout que tu fais ton service militaire. Allez, je te dis au revoir, mais fais attention à ne pas passer avec le kleps par la place Rartichek. Ça pourrait mal tourner, au cas où tu aurais encore besoin d'un kleps, allez, tu as mon adresse. » Schweik ne dérangea pas Max dans son sommeil. Il descendit acheter un quart de foie, le fit bouillir, et en plaçant un morceau près du museau de Max, attendit son réveil. Schweik avait bien prévu. En se réveillant, Max pour les chalets babines, s'étira, flaira le foie et l'avala goulûment. Ensuite, il s'approcha de la porte et aboya de nouveau trois fois. Schweik l'appela. « Max, veux-tu venir ici ?» Le chien obéit. Schweik le prit, il assit sur ses genoux et le caressa. En signe d'amitié, Max frétilla d'abord de sa queue coupée, puis appa délicatement la main de Schweik, la tint dans sa gueule et considéra d'un regard intelligent l'auteur de ces mots, ayant l'air de penser « Bien, rien à faire, je ne sais que trop, je suis fichu. » Schweik continuait à le caresser en lui racontant d'une voix tendre un conte de fées comme un petit enfant. Il y avait une fois un petit chien qui s'appelait Luxe et vivait chez un colonel. Le colonel avait une servante qui, tous les jours, conduisait Luxe promener. Une fois, il est venu un monsieur qui a volé Luxe dans la rue. Luxe a eu un nouveau maître, un lieutenant, on lui a donné aussi un autre nom, et on l'a appelé Max. Schweik ajouta, « Max, donne la patte. Tu vois, grosse bête, qu'on sera bon camarade, si t'es toujours gentil et obéissant. Autrement, tu verras que le service militaire, c'est pas une rigolade. » Max sauta à terre et tournoi joyeusement autour de Schweik. Le soir, lorsque le lieutenant Lucas rentra chez lui, Schweik et Max étaient de vieux amis. Méditant sur le sort de Max, Schweik émit cette idée philosophique. « En somme, un soldat, c'est seulement un homme volé à son foyer. » Le lieutenant Lucas eut une agréable surprise en voyant Max, qui de son côté manifesta une grande joie devant un porte-sabre. Comme le lieutenant voulait savoir d'où venait le chien et ce qu'il coûtait, Schweik répondit que c'était un cadeau d'un de ses amis mobilisés. « Tout va bien, Schweik, » dit le lieutenant en jouant avec Max. « Le premier du mois prochain, je vous donnerai 50 couronnes pour le chien. »« Bon, je ne peux pas accepter ça, mon lieutenant. » « Écoutez, Schweik, » prononça sévèrement le lieutenant, « quand vous êtes entré à mon service, je vous ai bien expliqué qu'il fallait m'obéir dans tous les cas exactement. Je vous dis aujourd'hui que vous toucherez 50 couronnes au premier du mois et que vous serez tenu de les boire. Que ferez-vous donc, Schweik, de ces 50 couronnes ?»« Je vous déclare avec obéissance, mon lieutenant, que je les boirai selon votre ordre. » « Retenez encore ceci. En cas d'oubli de ma part, je vous ordonne de me rappeler que je vous dois 50 couronnes. Est-ce compris ? A-t-il des puces, ce chien ? Tâchez de lui donner un bain. Demain, je suis de service, mais après-demain, j'irai me promener avec lui. » Tandis que Schweik lavait Max, son ancien maître, le colonel, tempêtait effroyablement, promettant au voleur du chien de le traduire au conseil de guerre, de le faire fusiller et pendre, enfermé en prison pour 20 ans et coupé en morceaux. « Que le diable emporte des assassins pareils, il en ferait bientôt leur affaire !» Une catastrophique menace planait sur les têtes de Schweik et du lieutenant Lucas.